toi, autour de toi. Merci pour le privilège d'être réunis à tes pieds et de recevoir de toi, Seigneur, la révélation de ta parole. Merci de nous convier, Seigneur, à ce grand rassemblement. Père, nous nous disposons, Seigneur, afin que nos cœurs soient tout préparés afin de recevoir ce qui nous vient de toi. Que chacun de nous, Seigneur, ce soir, reçoive de toi ce que toi tu as déjà préparé, ce qui est utile, Seigneur, pour notre épanouissement, pour notre croissance. Merci de te servir de notre frère qui a besoin de toi, Seigneur, pour mieux canaliser toutes les pensées et arriver, Seigneur, à nous donner l'essentiel de ce que toi tu as prévu. Nous te bénissons, Père, pour la bonne audition ce soir, pour la technologie qui ne nous fera pas défaut. Nous te bénissons pour ton esprit qui opère et qui agit. Que ton nom soit béni du début à la fin, notre Dieu. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la prière. À présent, nous donnons la parole à notre sœur.
Merci. Je vais lire dans Louis II. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Tina vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, la Dilamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Tina pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm, sur le chemin de Tina, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordeau et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna. Puis il alla vers elle. Elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par son ami, la Dulamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Elle ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Juda et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Juda dit, quelle garde c'est qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ces chevaux et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on veut dire à Juda, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons. Juda les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accouchement, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, Celui-ci sort le premier, mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérac. Parole de l'Éternel.
Nous rendons gloire à Dieu. Merci beaucoup, notre sœur, pour la lecture. Bien-aimés, hier, nous avons vu les décès successifs des enfants de Juda. Deux sont morts. Il lui reste un, le plus jeune, appelé Shéla. Celui-ci, le plus jeune, devait normalement hériter aussi la veuve. Mais Juda s'est dit, il ne faut pas que Shéla meure, lui aussi comme ses frères. Il a dit à sa belle-fille d'aller chez elle, d'aller se reposer chez elle jusqu'à ce que Shéla devienne adulte. Mais c'était du mensonge. Il ne dit pas ça pour agir comme il a dit. Qui voit tout a su cela et on a pris bonne note. Quelques temps après, la femme de Juda est morte. Cette femme est restée anonyme ici dans le passage. Que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, c'est toujours la fille de Shua. La fille de Shua, femme de Juda. Elle est restée inconnue. Peut-être le Seigneur avait-il un projet pour cet anonymat. Tandis que Tamar, on ne parle que de Tamar. Oui, nous verrons. Bien aimé, le texte est assez long, le temps n'est pas long. Nous nous arrêtons ici. Le Saint-Esprit qui est présent va nous aider à partager sa parole comme il le fait chaque soir. Nous allons partager en nous basant sur le temps, c'est-à-dire avoir 2 minutes de partage pour permettre aux autres de dire ce qu'ils ont reçu à partir du texte. Qu'est-ce que le Saint-Esprit leur a dit? Nous voulons les entendre aussi. Bien-aimés, nous exhortons nos frères et sœurs de partager. Et il y a quelque chose qui est là dans ton cœur que tu peux partager avec tes frères et sœurs. Tu n'as pas besoin de longues phrases, juste un peu bien-aimé. Même lire une phrase de la Bible et rester là. Donc, il y a diverses façons de partager. invitation à tout le monde. Nous voulons être exhortés, édifiés par beaucoup d'entre nous. Les pasteurs peuvent le faire. Il n'y a pas de problème. Mais nous souhaitons que ce forum ne soit pas seulement le forum où les pasteurs partagent à tout moment. Nous voulons aussi que d'autres frères et les pasteurs veulent aussi être édifiés par les paroles de nos pasteurs. Quelle joie, puisque nous formons une famille. Voilà, bien-aimés, ces mots d'introduction nous conduisent maintenant au partage à partir du verset 12. Tu peux prendre même deux versets, il n'y a pas de problème. L'essentiel est de garder le timing, c'est-à-dire 2 minutes. Merci. Oui, jusque-là, il n'y a encore personne. Le modérateur peut prendre la parole. Je prends le 12e verset. Après un certain temps, la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Bien-aimé, à partir de ce moment, Juda est veuf. Il a déjà perdu 2 enfants. Voilà aujourd'hui veuf. Ce sont des douleurs, des douleurs qui s'accumulent, et le Seigneur sait pourquoi tout ça. Bien-aimé, on peut connaître des situations pareilles, mais l'essentiel pour nous est de rester toujours attachés à notre Père. Il sait pourquoi il permet tous ces malheurs. Merci. Je donne la parole au pasteur ou au pasteur Célestin ou à maman Christine.
Oui, merci pour la parole, papa José. Effectivement, Juda nous montre un exemple quand il y a une situation qui passe dans sa vie. Ou qui passe dans sa famille, il comprend bien la souveraineté de Dieu. C'est ainsi qu'il va monter pour s'occuper de son bétail. Mais le verset 13 nous montre qu'on va rapporter à Tamar en disant « Voici ton beau-père est monté à Timna pour tondre son petit bétail. » C'était une grande manifestation, cette... tendre son petit bétail. Alors, c'est ainsi qu'elle va s'y rendre aussi. Elle va s'y rendre. Le verset 13 et 14 nous montre qu'elle s'est rendue là avec un but pour séduire son beau-père. Donc, ceci nous montre déjà, après avoir vécu avec lui, elle le connaissait bien et connaissait ses points fort, mais aussi ses points faibles. C'est ainsi qu'elle va se déguiser comme une prostituée pour l'attirer. Donc là, nous voyons bien que Juda avait vraiment le faible pour les femmes. C'est ainsi que... Mais la leçon que je tire, c'est juste l'espérance qu'a cette femme. Elle a été vraiment méprisée ou même elle a connu des problèmes avec son premier mari qui est mort, le deuxième mari qui l'a aussi vraiment minimisé ou qui n'a pas voulu donner la progéniture pour son défunt mari, mais elle espère tellement qu'elle va utiliser tous les moyens pour avoir cette progéniture. Nous voyons l'espérance, Nous voyons sa fidélité parce que depuis qu'on lui a promis, elle est restée en train d'attendre, une femme qui sait attendre en silence ce qui lui a été promis, même si c'est du mensonge, elle attend en silence. Et là, ce sont des qualités que nous sommes en train de découvrir dans cette femme. Merci.
Merci beaucoup. Jude, après la mort de sa femme, après le deuil, il s'est mis au travail. C'est pour dire que la vie continue et c'est un bon exemple. En ce qui concerne Tamar, elle est une femme blessée plusieurs fois, mais une femme qui espère. C'est pour cela qu'elle se met debout pour rencontrer son beau-père. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Qui veut partager?
Oui, à demain. D'abord, pasteur José du Canada, et ensuite, pasteur Richard.
Oui, pasteur José, d'abord, et Richard, ensuite. Merci.
Merci beaucoup pour la parole, frère. Parmi les questions qui nous aident à méditer ce soir, nous avons la question numéro 7. Quelle vérité Dieu nous révèle-t-il? Déjà, la première, une des vérités, c'est ce que le pasteur Sylvain vient de partager, la ténacité de cette femme. Elle fait partie, en fait, elle fait partie de ces nations qui devaient être expulsées du territoire promis pour que Israël occupe la terre. Il n'y a pas eu beaucoup de ces personnes païennes qui ont été dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Et Tamar en fait partie aussi. Je suis, moi, très touché par la grâce de Dieu. Parce que depuis un certain temps, nous lisons au sujet des 12 patriarches, comment est-ce que Dieu a voulu faire un peuple à partir d'eux. Lorsque il n'y a que la méditation qui peut nous permettre de comprendre les caractères de chacun, et nous comprenons au fur et à mesure que nous avançons que c'était des personnes qui, si c'était moi à qui on avait demandé de choisir quelqu'un pour en faire un peuple de Dieu, c'est probablement des personnes que je n'aurais pas choisies. Tant ils ont un caractère soit violent, soit méchant, soit mauvais, soit impur, soit ceci. Au fait, c'est des personnes qui sont comme moi. Et je me dis, Dieu leur a fait grâce. Et ici, nous avons Judas qui s'est éloigné de ses frères et qui fait exactement le contraire de ce que Dieu ne voulait pas. Il va s'allier avec les non-croyants et il va faire des choses que Dieu n'apprécie pas. Donc, c'est pourquoi je suis profondément touché par la grâce que Dieu a fait à la famille tout entière. Que ce soit ces personnes-là que Dieu a choisies pour en faire son peuple. Et c'est ce que le Seigneur continue de faire avec moi et avec nous tous. C'est vraiment la première vérité qui me touche et qui me ramène encore vers le Seigneur pour lui dire sincèrement merci.
Merci beaucoup, frère. Une grande vérité, la grâce de Dieu qui se répand sur une famille, en commençant par papa lui-même. Jusqu'aux enfants, si on regarde de près, ils ne sont pas dignes d'être appelés peuple de Dieu, peuple choisi. Non, mais c'est comme ça que Dieu agit pour chacun de nous. Gloire au Seigneur. Merci notre frère. Papa Richard,
Oui, papa, merci pour la parole. Oui, merci papa pour la parole. J'ai voulu partager le verset 14 qui commence par « Elle ôta ses habits de peuple.
»
Ça, c'est Tamar. Tamar a voulu endurer n'importe quoi parce que Tamar savait qui était Judas. Tamar savait le Dieu de Judas. Tamar ne voulait de tout, après voulait payer n'importe quel prix pour entrer dans cette famille. Et dans l'être de l'autre côté, on voit Tamar, Judas, qui était d'une famille qui avait un Dieu, sortir de ce parapluie divine pour s'enfoncer dans le péché. Et on voit une succession de péchés, il se marie, les enfants meurent, et il ne peut que s'enfoncer, ou jusqu'à, c'est trop bas, aller jusqu'à chercher des prostituées à la rue. Donc, d'une part, celui qui devait savoir l'importance de son Dieu ignore l'importance de Dieu, mais de l'autre côté, on voit un païen, qui a compris, de la même manière que Rahab. Rahab a compris le Dieu des espions. Ici, Tamar a compris aussi le Dieu de Judas. Et elle a fourni un effort pour s'y adhérer. Et c'est un bon exemple à suivre, pour nous qui avons Dieu. Il est très important que nous restons gardés l'image de Dieu pour permettre à ceux-là qui sont du dehors puissent être séduits de notre Dieu. Merci.
Oui, garder l'image de ce Dieu-là pour séduire ceux qui ne le connaissent pas encore. Cette femme, on peut dire qu'elle était inspirée pour s'attacher à cette famille. Oui, il y aura la récompense. Merci. Merci, frère. OK. Alors, il n'y a encore personne qui demande la parole. Le modérateur peut continuer.
Oui, je crois qu'il faut rafraîchir ton tableau, Papa José, parce que il y a José de Canada qui demande la parole.
Ah, il demande encore.
Oui, ensuite, il y a le frère Jean-Baptiste aussi.
Jean-Baptiste, c'est 403?
Oui.
Oui. Merci. Papa José, est-ce que nous pouvons donner au frère Jean-Baptiste qui n'a pas encore parlé?
Certainement, frère, oui.
Oui. Frère Jean-Baptiste.
Oui, merci beaucoup, pasteur José, pour la parole.
Oui.
Je vais faire un commentaire au verset 14 et puis verset 15. Oui, au verset 14, effectivement, je réalise que Tamar a obtenu ce qu'elle voulait. Mais la question que je me pose, c'est que est-ce qu'il faut aider Dieu? Est-ce qu'il faut chercher à obtenir coûte que coûte ce qu'on a besoin, quels que soient les moyens? Aujourd'hui encore, il y a beaucoup, surtout de nos sœurs, qui se permettent, dès que l'âge est avancé, qui disent facilement, j'ai besoin d'un enfant. Moi, j'en connais personnellement, qui attrapent des enfants, excusez-moi les termes, ils font des enfants bâtards simplement parce que l'âge est avancé, elle ne s'est pas mariée régulièrement, alors elle emprunte un raccourci, l'essentiel est pour elle d'avoir un enfant. Et j'ai comme l'impression que Tamar aussi a emprunté ce raccourci, malheureusement c'est la prostitution, pour avoir l'enfant. Est-ce que c'est encourageant? Aujourd'hui, je ne pense pas. Les sœurs avec Jésus-Christ doivent apprendre à patienter, tout comme les hommes, attendre le temps de Dieu. Et au verset 15, je m'en prends au comportement de l'ami de Juda. Je trouve là vraiment un exemple à ne pas suivre. Et je suis interpellé dans mes relations. Je côtoie qui? Parce que si la Doulamite ici était un chrétien ou avait la crainte du Seigneur, il devait empêcher son ami Juda de ne pas aller vers la prostituée. Mais il a cautionné la chose. Et je me dis, je dois choisir mes fréquentations. C'est important parce que si j'ai la mauvaise fréquentation, même si je m'égare, cette mauvaise fréquentation va m'encourager à m'égarer. Mais si j'ai une bonne fréquentation, elle va me ramener facilement sur la voie du Seigneur. Amen.
Amen. Merci beaucoup, frère, pour ces réflexions. Je peux dire un mot sur la femme. Disons que la femme ne fait pas vraiment une prostitution comme telle. Elle est une femme dont on a dit d'attendre un mariage officiel. Et certainement, la femme a appris que le garçon n'est plus garçon, il est un homme adulte. Sheila est adulte. On ne veut pas te le donner. Et lorsque Tamar se rencontrera, cette fois-ci, visiblement, Judas dira que toi, tu as raison et moi, j'ai tort parce que mon fils est déjà adulte. Donc, le cas présent doit être pris d'une façon, disons, on doit le prendre avec beaucoup de soin par rapport à ce que tu as dit pour des sœurs qui attendent et qui se mettent à la prostitution. Et cette femme Tamar, elle n'était pas sortie pour n'importe quelle personne. Elle était sortie pour son beau-père qui passe par là. Et qui connaîtrait la belle sœur, la belle fille, connaîtrait la conduite de son beau-père, qui peut-être ne voulait pas voir une femme quelque part. Et c'est ce que ce monsieur a fait. Donc, on est mort pour cette situation. Nous la prenons avec beaucoup de réserve, puisque nous verrons à la fin qu'est-ce que cet enfant deviendra. Donc, une situation particulière, mais l'enseignement que tu nous dis là-bas est vrai. On ne doit pas sortir pour chercher des enfants puisque on a attendu longtemps. Non. Là, tu as raison, mon frère. Merci. Oui.
Je peux prendre maintenant la parole, frère.
Oui.
Ok. Pour appuyer aussi ce que vous venez de dire, c'est que en termes de spiritualité, nous aujourd'hui, en ce moment, vous et moi, nous en connaissons beaucoup plus sur Dieu, sur sa loi, que ne l'est les personnages dont nous faisons la méditation ce soir. Donc, nous le regardons maintenant à la lumière des connaissances que nous avons aujourd'hui. Et c'est ce qui rend peut-être la chose un peu plus difficile, parce que nous le regardons avec toutes les connaissances dont nous disposons aujourd'hui. Cette femme, elle est hittite. Et chez les hittites, cette loi, donc la seule loi que la femme connaissait, c'est cette loi du Lévirat, qui consiste évidemment à prendre le beau-frère si le mari est mort, etc. Et nous savons ce qu'elle a vécu. Et même chez les Hittites, paraît-il, selon certains commentaires, même les beaux-pères qui restent veufs, ils pouvaient aussi assurer la progéniture du mari défunt. Donc, ça veut dire que la femme a agi conformément aux traditions de leur environnement à cette époque-là. Si elle était semblable à certaines des sœurs qui aujourd'hui font des bêtises, elle n'aurait pas attendu son beau-père. Elle serait partie avec n'importe qui. Donc, elle a ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la loyauté. Elle a été dévouée au mari qu'elle a épousé. Et c'est là ce que je voulais ressortir. Papa Célé a parlé de sa patience, la persévérance, mais elle a été aussi loyale à son mari, voulant respecter ce mari-là. Et le pasteur Richard a parlé de son désir de rester attaché à la famille. C'est ça la loyauté. C'est en cela que cette femme, Tamar, doit être reconnue pour cela. Et c'est, à mon sens, ce n'est pas pour rien que le Seigneur l'a aussi incorporée, en tout cas, dans la lignée du Messie. Voilà.
Merci beaucoup, pasteur, pour ces commentaires. Merci, papa Célestin ou maman Christine.
Oui, merci encore pour la parole, pasteur José. Je suis au verset 17 et 18. Je vois que la femme Tamar demande d'abord, verset 17, il y a Judas qui promet de lui donner un chevreau, un petit bétail, un chevreau de son petit bétail plutôt. Mais la femme demande un gage présentement. D'abord, elle sait bien que son beau-père, c'est un menteur. C'est pour cela qu'elle veut vraiment un gage. Et ce gage, elle va exiger son cachet, son cordon et le bâton qu'elle a à la main. Le cachet, le cordon, le bâton représentaient l'identité complète de la personne. Et c'est ça qu'elle exige. Et nous voyons au verset 19, quand elle va avoir ça, après Judas va dire, je crois que c'est le verset 23, quand il va chercher à récupérer et cela, elle dit, non, ne nous exposons pas au mépris, j'abandonne même mon identité. Et ça, c'est très grave, ce que Judas a fait, parce qu'il ne veut pas le mépris, il veut abandonner des objets de grande valeur qui représentent toute son identité. Et alors je me dis, qu'est-ce que nous avons aussi de grandes valeurs que nous pouvons abandonner aujourd'hui pour soit pour un poste, soit pour un plaisir. Nous faisons détruire toute notre identité en tant que fils et filles de Dieu pour des choses vraiment qui n'ont pas de valeur. Merci
beaucoup. La femme a demandé des choses de valeur, même si le propriétaire les a négligées à la fin, mais elle a su demander. Et nous voyons que Judas lui donnait d'abord un chevreau. Un chevreau, c'est un animal qui pouvait être tué ou bien un animal qui pourrait s'égarer ou pouvait être volé. À ce moment-là, Tamar n'aurait rien à garder. Ici, on voit également la sagesse et l'intelligence de cette femme de demander des choses qui ne peuvent pas facilement s'égarer. Tandis que l'animal pouvait un jour être tué par une autre personne, et là, elle ne pouvait pas brandir devant Judas que Judas, j'ai été avec vous, je suis grosse maintenant. Non, elle ne pouvait pas si elle avait accepté seulement un animal. Alors, les trois choses là, cachet, cordon et bâton, sont vraiment des choses importantes. C'est pour cela, elle a tenu avec soin les garder. Parce que, comme l'a dit le frère pasteur Célestin, il connaît cet homme. Et cet homme a été eu parce que lui qui voulait tromper la femme, il est trompé lui-même. Merci beaucoup, pasteur. Oui, nous avons frère Thomas. On lui donne d'abord, ensuite papa Richard et papa José. Il y a aussi le frère Jean-Baptiste qui le suit. Merci beaucoup. Papa oui, Thomas bien, d'abord.
Oui, bien-aimé, merci pour la parole. Je suis encore ici dans le même verset 18 et le verset 23. Lorsque ce monsieur, c'est qu'on lui demande ce sigle. Le sigle, donc le cachet, c'est donc comme la bague du pouvoir. C'est son pouvoir, en fait. C'est pas seulement que ça a de la valeur, mais c'est ça qui rend Judas ce qu'il est. Judas était notable dans la population. Et ce qu'on lui demande ici, c'est le sigle, donc, et puis son bâton, comme le sceptre. C'est vraiment de l'argent, mais aussi le pouvoir. Mais devant le besoin sexuel, le monsieur qui promet une bête qu'il va envoyer, et ça ne suffit pas. On lui dit, donne-moi ton pouvoir ici, et c'est ton cachet et le bâton de pouvoir que tu as. Devant le désir du péché, il donne. Et ce qu'il veut éviter, le verset 23, que nous risquons d'être objet de ridicule. Au fait, il est déjà ridicule. Parce qu'il n'a plus pouvoir. Les choses qui montrent sa distinction, qui le distingue, comme le pasteur a dit, c'est parti. À cause d'un plaisir urgent. Il a besoin de faire l'amour maintenant. Et donc, quand il fait cet amour-là, et c'est le plaisir est parti, c'est fini, le moment est parti, mais en attendant, pas seulement les choses de valeur, mais son pouvoir. Donc, je trouve ici que le péché avilit. Je trouve que le péché, quel que soit, malgré son éphémérité même du plaisir qu'il peut donner, mais ça avilit. Et Moïse va dire, ton péché, sois sûr que ton péché te retrouvera. Donc, j'entends Dieu me dire, Thomas, fais attention. Le fait que je suis empressé vers une tentation, le péché comme tel, je dois demander au Saint-Esprit la maîtrise de soi et ne pas m'avilir pour commettre un péché et satisfaire un besoin urgent alors que les conséquences sont éternelles. Merci.
Merci, frère. Merci pour ce partage. Nous donnons la parole au pasteur Richard.
Merci beaucoup, papa, encore pour la parole. Le verset 26, où Judas va finalement crier, elle est plus juste que moi. Nous connaissons l'histoire comme selon la lecture. La femme a découvert que la femme était grosse et finalement on devait la brûler vive. Et nous voyons maintenant Judas qui arrive à comprendre sa faute et en disant que cette dame est plus juste que moi. Et donc ça, c'est sont les éléments qui montrent un cœur qui tend vers la transformation. Et nous savons que vers là en haut, on voit Judas qui va dire « Permets-moi de faire le sexe avec toi », si je peux paraphraser. Et comme Papa Thomas disait, que le péché de la sexualité est un péché que nous devons veiller terriblement. C'est un péché qui a détruit plusieurs réputations, plusieurs personnalités des gens. Et au point où Judas a croyé que non, du moins mon enfant est sauvé, mais sans se rendre compte que c'est lui-même maintenant qui se voit avec la corde au cou. Donc nous devons veiller à ce péché de sexualité. Mais de l'autre côté aussi, nous devons être capables d'accepter notre faute, comme Judas le fait ici. Ah, oui, cette dame est plus juste que moi. Il accepte sa faute. Merci.
Merci beaucoup. Papa José, puis frère Jean-Baptiste, et enfin, papa ou... maman Christine, vous serez alors les dernières personnes à parler puisque aujourd'hui nous avons l'habitude de nous arrêter un peu plus tôt.
Rapidement, c'est le verset 24. C'est la manière que Judas condamne sa belle-fille lorsqu'il apprend la nouvelle. Et ironie du sort, c'est lui qui est coupable. Et ça m'interpelle parce que il faut que je me garde d'être prompt à condamner, parce que bien souvent, ce que nous condamnons chez les autres, c'est ce que nous pratiquons nous-mêmes. Et c'est ce que j'entends aussi le Seigneur me dire, de faire très attention pour ne pas toujours pointer du doigt, parce que en le pointant, un seul doigt, il y en a trois, en tout cas, qui se retournent vers moi-même. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. Frère Jean-Baptiste.
Merci, pasteur. Je reviens encore au verset 20-21. Je me mets à la place de cet ami, de Judas, à qui on donne la responsabilité d'aller remettre les chevaux à la dame, et il accepte. Et il vient même au verset 21, il fait des commentaires, il va demander aux gens du quartier, mais où est la prostituée qui était ici sur le chemin? Avec beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Vraiment, je suis très choqué, je me dis, je ne peux pas encourager les mains comme ça. Tant que cet homme est mon ami, il est mon frère, il est ma sœur, ou qui que ce soit, il me demande de faire quelque chose qui est à l'encontre de la volonté du Seigneur. Je dois utiliser de mon pouvoir pour lui remettre à la raison. Je ne peux pas participer comme cet homme, parce que la Bible dit que c'est son ami. Ce n'est pas son petit frère ou son enfant pour avoir peur, mais c'est son ami. Et il accepte. Il a laissé faire, prendre la femme, et maintenant on lui envoie pour lui remettre les cadeaux. Il va avec beaucoup d'aisance. Non, c'est pas une bonne attitude. Et si je me mets du côté de Judas aussi, je ne peux pas impliquer les gens dans mes bêtises à moi. Non. Merci.
Merci beaucoup, frère Jean-Baptiste. Papa Célestin.
Oui, papa, c'est maman Christine. Je dirais que sans objet, parce que papa José du Canada a presque tout pris ce que je voulais. Merci pour la parole.
Merci aussi pour être brève. Et merci. Bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, nous terminons un peu tôt puisque notre soirée est bien remplie. Nous sommes au verset 27 et suivant jusqu'à la fin. C'est le moment d'accouchement. Au moment d'accouchement, de l'accouchement, on aperçut qu'elle avait des jumeaux. L'un d'eux sortit alors un bras, la sage-femme la saisit et y attacha un fil rouge. Celui-ci est le premier-né, dit-elle, mais l'enfant retira son bras et son frère vint au monde le premier. La femme s'exclama, quelle brèche est ouverte. Et Judas appela donc Pérès, ce qui et puis l'autre enfant vint au monde avec le fil rouge au bras et Judas l'appela Zéra. Bien-aimé, ce n'est pas le fait du hasard ici. C'est Dieu lui-même qui a préparé la naissance de brèche. Il y avait deux enfants, comme Ésaü et Jacob étaient dans le ventre de Rachel. Et pour la venue de ces deux-là, il y a eu aussi à peu près le même mécanisme. Celui qui fait sortir le bras, le premier, ce n'est pas celui qui va sortir le premier.
Le ventre de Rebecca.
Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, c'est comme ce que disait le Seigneur. Les derniers seront le premier et le premier seront donc le dernier. Et ce dernier ici, c'est Pérès. Pérès est l'ancêtre de notre Seigneur Jésus. Lorsque nous prenons Ruth chapitre 4, verset 18, nous lisons ceci, Ruth chapitre 4, verset 18. Voici la liste des sangs des ancêtres de David, à partir de Pérès. Pérès, c'est lui qui est né de Tamar, fut le père d'Hésron. Hésron, celui de Ram. Ram, celui d'Aminadab. Aminadab de Nakon. Nakon de Salma. De Salma de Boz. Boz d'Obed. D'Obed de Jessé et Jessé de David. Et nous savons que de David, il y aura des générations jusqu'à la naissance du Seigneur. Voilà la sagesse de Dieu qui ne voulait pas que la femme inconnue là, dont on n'a pas retenu le nom, seulement la fille de la femme de Judas. Pour le Seigneur Dieu, c'est bien Tamar, cette femme qui a été plusieurs fois blessée par la mort de Marie. D'abord R, ensuite au nom, et puis on lui dit tu auras Sheila, mais elle s'est vue trompée et elle a joué ses jeux. Mais ses jeux, elle n'était pas seule. Celui qui voit tout a dirigé toutes choses jusqu'à la naissance de Pérès. Et c'est bien Pérès qui sera le grand ancêtre de notre Seigneur. Le Seigneur, comme nous savons très bien, il a connu trois femmes non-juives dans sa généalogie. Si nous prenons Matthieu chapitre 1er, Matthieu chapitre 1, nous voyons ceci. Il y a d'abord au verset 2 du chapitre, au verset 3 du chapitre 2, du chapitre 1er, Judas fut père de Pérès, là où nous avons lu, et de Zéra, les jumeaux. Leur mère était Tamar, et Tamar n'était pas juive. Nous descendons, nous arrivons au verset 5. Salma fit père de Boaz, de Rahaba. Rahaba était sa mère. Et nous savons Rahaba. Rahaba, c'est la prostituée de Jéricho. Nous passons, nous arrivons à Ruth. Boaz fut père d'Obed avec Ruth. Ruth était la mère. Et Ruth, nous savons bien, c'est une Moabite, c'est une étrangère. Et enfin, nous avons au verset 6, Jessé du roi David. David fut père de Salomon. Sa mère avait été la femme d'Uri, le Hittite. Nous avons Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri, qui n'étaient pas les Juifs. Dieu a voulu ça. Il est un Dieu qui aime tout le monde, même les étrangers. Et il a fait que son fils descende de ces étrangères aussi. Nous sommes étrangers par rapport aux Juifs. Et le Seigneur nous a pris. Nous sommes aujourd'hui, vous et moi, les serviteurs, les servantes, les enfants de Dieu. Et ce Dieu, c'est le même, le Dieu de Judas. Alors, faisons confiance à ce Dieu, même si il y a des situations que nous ne comprenons pas. Restons toujours attachés à ces dieux. Que Dieu bénisse cette exhortation et cette méditation qui a été faite pour sa gloire. Amen.
Amen.
Merci, bien-aimé. Demain, nous allons, avant de parler de la lecture, nous voulons donner le passage de demain. Oui, demain samedi, nous sommes seuls ou avec la famille. Nous lirons le psaume 38 et le dimanche, nous nous retrouvons de nouveau autour de l'épître aux Romains. Romains chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 31. Voilà, ça c'est pour demain. Tout de suite, ce sera la prière et l'invitation est lancée à tout le monde. Nous donnons la parole au pasteur Célestin de nous communiquer, de nous dire ce que nous avons à apprendre ce soir sur notre fumesse.
Oui, merci pour la parole, Papa José. Juste, nous commençons par saluer les frères et sœurs qui sont à la radio. À North Carolina, au Québec, en Alberta, et aussi une ville qui n'est pas identifiée. Bon, est-ce que c'est peut-être en Afrique? Est-ce que c'est pas identifié? Ça, c'est la première annonce. La deuxième, les frères et sœurs qui nous suivent à la radio et qui veulent participer au camp biblique peuvent entrer dans notre site et aller dans le menu. Il y a l'événement. Dès qu'ils cliquent sur l'événement, il y a la possibilité de s'inscrire pour le camp biblique d'été en Belgique. Donc, cela est valable pour les membres qui peuvent s'inscrire, mais aussi tous ceux qui nous suivent à travers le monde, qui peuvent vouloir participer au camp biblique, peuvent aller juste à notre site. Dans la colonne événements, ils peuvent juste s'inscrire dans le site et nous aurons les coordonnées pour les contacter, leur donner tous les détails sur l'évolution des préparatifs. Merci.
Merci beaucoup, pasteur. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, notre Père, le Dieu d'amour. Tu es merveilleux, notre Seigneur. Nous ne pouvons pas saisir la portée de tes projets. Tu avais un grand projet pour Judas et pour Tamar. Humainement parlant, ce n'est pas possible que de cette union-là, que l'enfant qui sortira soit l'ancêtre de notre Seigneur Jésus. Mais tu sais pourquoi tu l'as fait. Et nous ne pouvons que nous émerveiller, notre Père, devant toi. Nous avons des situations dans nos vies de tous les jours que nous ne comprenons pas de foi. Nous sommes quelquefois troublés. Nous sommes parfois embarrassés, nous ne savons pas, mais toi tu connais tout. Nous te demandons, notre Père, de nous ouvrir nos yeux, les yeux de l'Esprit, pour que nous puissions te voir et comprendre ce que tu veux faire de nous. Nous avons appris beaucoup de choses. Seigneur, que ton Esprit reste dans nos cœurs pour nous montrer ce que nous avons vu ce soir. Mais on peut partir avec le jugement. Judas a jugé Tamar, l'a brûlé. Et il ne sait pas que c'est lui qui est à la base de tout cela. C'est comme David qui a décidé de tuer l'homme qui a pris un mouton, une brebis d'un pauvre. Et celui qui a pris cette brebis, c'est lui-même, David. Voilà, c'est comme ça que nous sommes prêts à juger nos semblables. Ayez pitié de nous. Que ta grâce, la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit, soit avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen.
Merci. Voilà